أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, je traduis le verset que je viens de citer. Et ne discutez avec les gens des Écritures que de la manière la plus courtoise, à moins qu'il ne s'agisse de ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites-leur, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre ne font qu'un Dieu unique et nous lui sommes totalement soumis. Donc, je vais méditer ce verset avec vous, qui est le verset 42 de la sourate 29, intitulé l'araignée. Donc on va essayer de méditer pendant une demi-heure ce verset et les implications et les moralités de ce verset, bien sûr en ce qui nous concerne, nous, musulmans, chrétiens, juifs, et notre rôle dans la société d'aujourd'hui. Et je parlerai de cela en trois points. Le premier point, pourquoi dialogue-t-on ? Deuxième point, comment dialogue-t-on ? Troisième point, sur quoi dialogue-t-on ? Et je vais essayer d'être rapide parce que ce sont des points qui, où chaque point nécessite une intervention à part, une intervention d'une heure et demie au moins. Donc je vais essayer d'être bref, hein, et juste je donnerai des idées et des points que peut-être on les développerait ensemble dans d'autres occasions. Et je commence par le premier point. Et on va voir qu'il y a une relation entre laïcité et compréhension de la laïcité et dialogue interreligieux. Le premier point est pourquoi dialogue-t-on ? Pourquoi on dialogue ? Parce que pour commencer quelque chose, et que ça soit réfléchi et utile, il faut qu'on se pose déjà la question de base, pourquoi on l'a fait ? Si on trouve une utilité, qu'on démarre. Sinon, on s'arrête. Ou on rectifie notre démarche. Donc, le pourquoi du dialogue, pour moi, musulman, et je crois que c'est ce qui vous intéresse, ma présence aujourd'hui, c'est que je vous explique à un musulman comment il pense. Hein, parce que je crois que vous êtes, à la plupart, soit des chrétiens ou des juifs, ça ne vous intéresse pas que je vous parle. Et deuxièmement, je ne serais pas capable de parler à votre place. Donc je vous parle aujourd'hui en tant que musulman. Pourquoi dialogue-t-on ? Un musulman doit croire que le dialogue aujourd'hui est une obligation religieuse, obligation islamique, deuxièmement, une nécessité sociale. J'explique un peu. Le dialogue aujourd'hui est une obligation religieuse. Je citerai un seul verset coranique, pas parce qu'il n'y a qu'un seul, mais parce que je n'ai pas assez de temps. Le verset dit « Ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Ô les hommes. Et là, homme avec grand H. On va voir pourquoi après. Ô les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Donc les hommes, là, c'est de l'humanité. Ô les hommes, on vous a créés d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. C'est Sourate 49, verset 13. Donc, dans ce verset, un musulman, quand il lit le Coran, qui est la première source de l'islam, je dis bien la première source de l'islam, quand il lit le Coran, il lit ce verset, il va comprendre pourquoi Dieu nous a créés d'un mâle et d'une femelle. Donc la source est unique de la création de l'homme, mais après, ce n'est plus l'homme unique, mais c'est l'homme différent. On vous a créé d'un mâle et d'une femelle, mais on a fait de vous des peuples et des tribus. Et donc l'origine est unique, mais après, les générations après ne sont plus les mêmes. Hein, ils sont répartis en peuples et en tribus. Si on dit peuple et tribus, c'est-à-dire cultures différentes, civilisations différentes, sociétés différentes, langues différentes. Donc, il y a après, de l'origine qui est unique, il y a la différence et la diversité humaine. Mais pourquoi ? Pourquoi on était unique, mais aujourd'hui, on n'est plus semblable, on n'est plus les mêmes ? Et eh bien la raison vient juste dans la phase ou la phrase qui est après. Et on a fait de vous des peuples et des tribus afin que vous fassiez connaissance entre vous. C'est ça l'objectif. Parce que la vie sera monotone si on aurait été pareils tous. Et la diversité est l'origine de la richesse. Si on reste toujours le mâle et la femelle, qu'ils étaient l'origine de l'humanité, il n'y aura plus de diversité, donc il n'y aura plus de richesse, et donc il n'y aura plus, que ce soit avancé technologique, que ce soit... Donc toute la richesse vient de la diversité humaine. Mais la diversité humaine, elle est là pourquoi ? De point de vue religieux, elle est là pour qu'on fasse connaissance entre nous. Mais après, on fait connaissance. Mais sur quelle base on va faire cette connaissance? Parce qu'on va dire que, on peut faire connaissance, mais dire que moi je suis le maître, et l'autre il est le subordonné, il est l'esclave, le serviteur. Non. Non. Pourquoi? Parce que la fin du verset nous dit que le plus méritant d'entre nous n'est pas une race, n'est pas une culture, n'est pas une origine, mais le plus méritant d'entre nous, c'est le plus pieux. D'accord. Donc le plus pieux. Donc le critère, c'est la piété de Dieu, c'est la proximité de Dieu, c'est la connaissance de Dieu, c'est les bonnes actions. Est-ce que ça, nous, hommes, on peut le définir? Non. Dieu nous dit après que Dieu est omniscient et bien informé. C'est lui le seul qui est capable de connaître ce qu'il y a dans nos cœurs. Parce que la piété est dans le cœur. La piété n'est pas dans les paroles. La piété n'est pas dans les apparences. Mais la piété est dans le cœur et ne connaît ce qu'il y a dans le cœur que celui qui a créé le cœur. Donc voilà ce verset, comment il est une base, comment il est le fondement du dialogue avec l'autre. L'autre qui est bien sûr différent de nous. Et dans un autre verset, Dieu nous dit « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ » Et si Dieu le veut, il pourrait bien vous créer semblable. Il pourrait bien faire de vous une seule communauté qui ne témoigne pas de différence entre elles. Mais vous serez jusqu'à la fin du monde différent et vous restez différent. C'est un autre verset aussi qui nous dit que la diversité ou la différence entre les hommes, entre les peuples et les tribus, était la volonté de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas changer cette volonté. On doit s'adapter à la volonté de Dieu qui est le fait de nous créer différents et divergents. Après, le deuxième point, le B du premier point, qui est le dialogue. Pourquoi on dialogue ? On a dit qu'on dialogue parce que c'est une obligation religieuse. Et deuxièmement, on dialogue parce que c'est une nécessité sociale et socio-culturelle. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On doit dialoguer. Et un religieux, s'il ne dialogue pas, quel exemple il donne à celui qui n'a pas de religion ? Quel exemple ? Si nous, les religieux et les pratiquants et les gens, surtout les religions monothéistes, nous ne sommes pas capables de donner un modèle de cohabitation sociale et paisible, je ne sais pas qui pourrait le faire. Moi, je ne vois pas. Nous, qui sommes guidés par des valeurs et des principes, nous qui subissons pas seulement une logique matérialiste, si nous on n'est pas capable de définir un modèle de cohabitation avec nos différences, avec nos diversités, je ne sais pas c'est qui pourrait le faire. Donc, pourquoi dialogue-t-on ? Parce que c'est une nécessité socio-culturelle. Premièrement, parce que aujourd'hui, on n'est plus dans le XXe siècle. Aujourd'hui, on subit la mondialisation. On est dans la mondialisation. Et si on dit mondialisation, aujourd'hui, mondialisation, dans la mondialisation, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Mais malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui de la mondialisation, c'est surtout l'aspect négatif de la mondialisation. C'est la propagation d'un seul modèle de vie. C'est la propagation du modèle du plus fort et non pas du modèle du tolérant. C'est la propagation non pas de la force de la logique, mais de la logique de la force. Aujourd'hui, il n'y a pas une logique qui s'impose, mais il y a une force qui s'impose. C'est la logique de la force. Le plus fort a plus de moyens de faire propager sa culture, sa civilisation, et même parfois dans l'objectif de dire cette civilisation est la seule et unique, valable et praticable aujourd'hui. Donc la mondialisation aujourd'hui fait que le monde, comme ils disent, est une grande ville. Le monde n'est plus les extrêmes qui ne se rejoignent jamais. Non, le monde aujourd'hui est une grande ville. Mais pourquoi on dit grande ville ? C'est ce qu'ils disent, que le monde aujourd'hui, avec la télécommunication, avec les médias, avec tout ce qui se passe, est une grande ville. Non, c'est une petite ville. Parce que dans une grande ville, avant, il peut se passer quelque chose dans l'extrême ou l'extrémité de la ville, où l'autre extrême n'est pas au courant. Mais aujourd'hui, on regarde la guerre en live. En direct, on regarde ce qui se passe en Irak, en Palestine, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on regarde minute par minute ce qui se passe au bout de l'autre monde. Donc c'est plus une grande ville, c'est une petite ville. Pourquoi je dis cela ? C'est pour dire que les religions aujourd'hui ne se sont pas séparées, ils ne sont plus séparés par l'espace géographique. L'espace géographique aujourd'hui n'a plus de sens. Parce que je suis en contact avec, par mail ou que ce soit par chat, ou je peux le regarder, je peux faire une visioconférence avec un savant ou avec une personne qui est aux États-Unis et je suis là. Donc l'espace géographique aujourd'hui, l'effet ou l'impact de l'espace géographique est très minime. Donc l'islam n'est plus la religion de l'autre. L'islam n'est plus la religion de celui qui est derrière les océans ou derrière les mers. Non. L'islam aujourd'hui est une religion qui compose le paysage général de notre petite ville, comme je viens de dire. Bien sûr, l'islam, bien sûr, les chrétiens, que ce soit des protestants ou des catholiques, ou des orthodoxes, ou des juifs, que ce soit des gens sages ou des extrémistes, ils font tous partie d'une petite ville. Donc, ceci nous met devant nos responsabilités. Que soit, on a deux choix. Avant, chacun il est dans son côté, il fait sa vie. Aujourd'hui, on n'a que deux choix. Avant, on avait trois choix. Soit se connaître et coordonner, soit s'entretuer, soit chacun y fait sa vie. Aujourd'hui, on n'a plus que deux choix. Soit s'entreconnaître, soit se rapprocher, soit établir une ambiance de confiance mutuelle, soit s'entretuer. On n'a plus le troisième choix, que chacun y vit sa vie de son côté. On n'a plus ce choix. Donc, aujourd'hui, la mondialisation nous exige un modèle de cohabitation paisible. Et je dis un modèle de cohabitation paisible, ça doit être entre toutes les entités sociales, que ce soit religieux ou athée, que ce soit sage ou extrémiste, que ce soit toutes les entités qui forment le paysage social doivent se rencontrer et parler et échanger. Donc premièrement, c'est l'effet de la mondialisation. Deuxièmement, la citoyenneté. La citoyenneté. Aujourd'hui, la France ou l'Europe n'est plus un club chrétien. Sauf s'ils veulent dire ça parce que la politique européenne est une politique de gens qui est à l'origine sans chrétiens. Mais aujourd'hui, le citoyen français ou européen est un chrétien, est un juif, est un musulman. Donc, l'islam ou le musulman, aujourd'hui, il est citoyen. Il n'est pas un visiteur ou un touriste qui a eu un visa d'un mois ou de trois mois, il va revenir. Il n'est plus celui qui avait une carte de séjour de 10 ans, non. Il est un Français à part entière. Un Français qui, son père était Français aussi. Et on a la troisième génération musulmane en France et en Europe. On a des musulmans qui ont des ancêtres français, nés ici. En 1960, ils étaient là. Donc c'est la troisième génération, ce qui dit que, ça y est, l'islam n'est plus la religion de l'autre. C'est la deuxième, ou c'est le deuxième point qui exige un dialogue et un échange et une rencontre. Troisième point, c'est l'actualité politique. L'actualité politique, je veux dire par là, ce qui se passe dans le monde. Parce que la mondialisation a fait du monde une ville, et donc l'actualité politique, on ne parle plus de l'actualité nationale, mais c'est l'actualité internationale qui influence. Parce que je crois que ce qui se passe en Palestine influence le comportement d'un musulman qui est en Indonésie, ou qui est au Maroc ou en Tunisie. Donc on parle d'une actualité politique internationale. C'est quoi le rôle du religieux dans tout ça? Il y a un autre point qui est la montée de l'extrémisme. Mais avant ça, quand on parle de politique, quand on parle des thèses avancées du vivre ensemble, et on voit que aux États-Unis, parmi les thèses qu'ils ont connu beaucoup de notoriété, c'était la thèse de Fukuyama, la fin de l'histoire, ou la thèse avant Fukuyama de Huntington, le choc des civilisations. Qu'est-ce qu'ils stipulent par ces thèses? Ils disent que ça y est, les civilisations, et depuis l'aube de l'existence humaine, l'homme, à chaque fois qu'il voit un différent en face de lui, il se croit qu'il est en lutte perpétuelle avec lui. Et donc, le plus fort est celui qui est plus apte à s'adapter, c'est celui qui va régner. Et donc, puisqu'on voit aujourd'hui la règne absolue du matérialisme, du modèle capitaliste, donc le monde américain ou la civilisation américaine va régner sur tout le monde, et par là, son collègue Fukuyama, il continue cette thèse en disant que il en résulte que l'histoire est finie, qu'on est arrivé à terme de l'histoire et de la civilisation humaine, parce qu'aujourd'hui on est parfait. C'est ce qu'il dit, mais ça fait, moi je le présente d'une façon, c'est un livre qui a des thèses intéressantes. Hein, qu'il faut vraiment discuter les éléments de cette thèse, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit le pôle unique qui veut régner sur tout le monde. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc l'histoire est finie, donc c'est bon, on est parfait. Le monde américain ou le modèle américain va régner. Et le dernier ennemi, c'était la Russie. Et donc, ça va, hein, le modèle communiste, c'était le dernier modèle qui a fait l'ennemi du modèle capitaliste. Et donc, ça, là, c'est fini. Donc, nous, les religieux, quel est notre rôle dans tout ça? On a une certaine responsabilité, quand même. Elle est où, notre responsabilité? Elle est face à la montée de l'extrémiste. De l'extrémisme, du part et d'autre, parce que ces thèses, ce sont des thèses extrémistes. Il y a l'extrémisme de certains qui se croient musulmans. Il y a l'extrémisme de ceux qui se croient chrétiens. Il y a l'extrémisme de ceux qui croient juifs. Il y a l'extrémisme de ceux qui sont matérialistes. Et là, Huntington et Fukuyama nous donnent l'exemple de l'extrémisme l'extrémisme matérialiste ou capitalistique. Après, il y a l'échec du modèle de la société de consommation. L'échec de ce modèle nous disent, nous les religieux, vous avez un rôle à jouer, à montrer aux gens qu'on ne se réjouit pas seulement par le fait de consommer. On peut se réjouir des choses qu'on détient déjà, sans dépenser, se réjouir, être avec Dieu pendant un moment. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas quelque chose de très bon d'être avec Dieu pendant un moment. Et ça, on peut le faire n'importe où, n'importe quand on veut. Donc notre richesse, elle est à l'intérieur de nous, et non pas dans les choses qu'on achète. Notre jouissance, elle est à l'intérieur de nous. On peut avoir le bien-être avec ce qu'on a et non pas avec ce qu'on va acheter. Avec ce qu'on est et non pas avec ce qu'on a. Donc, l'être dans la religion est plus important que l'avoir. Avoir des choses, ça peut venir et aller. Mais être quelqu'un, c'est plus stable. Et c'est l'origine de notre bien-être. Si on veut vivre heureux, épanoui, il faut être en paix avec le Seigneur. Et non pas, si on veut être heureux, il faut rassembler le plus de choses qui coûtent le plus cher. Et donc on reste toujours dans cette mentalité de vendre et acheter et avoir le mieux, mais le mieux qu'à niveau matériel. Donc je passe au deuxième point qui est comment être réunis, comment dialogue-t-on ou comment être réunis pour faire face aux défis actuels dans nos sociétés. Comment dialogue-t-on? Donc avant j'ai parlé de pourquoi dialogue-t-on, pourquoi se rencontrant-on, pourquoi se rapprochant-on. Là, je vais dire, lorsqu'on dialogue, lorsqu'on se rencontre, comment on va gérer notre dialogue? Comment on va s'entreconnaître? Et là, je citerai quelques versets, d'où le premier verset que j'ai cité, « Et ne dialoguez avec les gens du livre qu'avec la meilleure des manières, ou qu'avec la manière la plus courtoise. Même parfois, la forme des choses a une certaine importance dans le fond. Parce que on est des hommes, on est imparfaits, et la forme nous intéresse parfois. Bien sûr, la forme qui est au service du fond, et pas la forme dans l'absolu. Comment dialogue-t-on ? D'après ce verset, on dialogue avec la meilleure des manières. Ça veut dire quoi avec la meilleure des manières ? C'est le verset, le premier que j'ai cité, c'est le verset, voilà, Sourate 29, verset 42. Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise. Donc là, il y a le comment. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire quoi avec la meilleure des manières ? C'est-à-dire que si j'ai deux manières qui sont toutes les deux bonnes, j'ai pas le droit de choisir la moins bonne, mais je dois choisir celle qui est la meilleure. Voyons. Si le Coran aurait ordonné ou recommandé les musulmans de dialoguer avec une bonne manière. Une bonne manière ou un bon moyen, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est fixe et qu'on doit l'utiliser, on doit le chercher, et dès qu'on le trouve, on l'utilise. Mais avec la meilleure des manières, ça veut dire qu'il faut rester toujours dans l'effort de trouver la meilleure des manières. On est toujours dans l'effort. C'est-à-dire que c'est indéfini, c'est infini. La meilleure ou le moyen de dialogue n'est pas quelque chose de défini. Non, c'est un champ d'effort. Il faut toujours faire l'effort pour améliorer nos moyens et nos manières de dialogue. Et c'est ce qui nous dit l'autre verset. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Prêche au sentier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec le différent avec la meilleure des manières. Là, voyons clairement la différence entre la bonne manière et la meilleure. Prêche au sentier de ton Seigneur avec la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose de défini. Et la bonne exhortation. Soulignez le mot « bonne ». Et la bonne exhortation. Mais discuter avec le différent avec la meilleure des manières. Ce n'est pas la bonne manière. Hein? Et c'est pour ça que je disais que la bonne manière et la meilleure manière ne sont pas la même chose. La bonne manière, on la connaît. Mais la meilleure, on doit toujours faire l'effort de la connaître et de l'utiliser. Dans un autre verset, Dieu nous dit « La yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din » ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Dieu ne vous interdit pas concernant ceux qui vous ont pas combattu dans la religion, qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisant et juste avec eux. Dieu aime bien les bienfaisants. Et là, on remarque dans ce verset que le verset nous dit « Dieu ne vous interdit pas d'être bienfaisant et juste avec ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion, ceux qui n'étaient pas injustes avec vous. » Et remarquons qu'il a cité la bienfaisance avant la justice. Dieu ne vous interdit pas d'être bienfaisant et juste. Donc il a cité la bienfaisance avant la justice. C'est quoi la différence entre la bienfaisance et la justice ? La justice, c'est le fait de prendre ses droits et de donner ses devoirs. Mais la bienfaisance, c'est de faire ses devoirs et laisser une partie de ses droits. C'est ça la différence entre la bienfaisance et la justice. La bienfaisance est un niveau plus haut que la justice. Être bienfaisant, c'est faire ce qui est de ses devoirs et parfois laisser une partie de ses droits. C'est ça la bienfaisance. Et quand Dieu nous parle dans le Coran de la bienfaisance, il utilise ce terme surtout avec, dans le contexte de notre relation avec nos parents. Il ne parle jamais de justice, il parle de bienfaisance. Parce que si une relation d'amour qui n'est pas gérée par les droits et les devoirs, mais qui est gérée par la bienfaisance et l'amour qui est infini. Donc, la meilleure des manières est différente de la bonne manière. Comment dialoguer avec l'autre? La continuité du premier verset que j'ai cité est « dites-leur ». Dites-leur, c'est-à-dire « dites aux gens du livre que nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé. Et nous croyons que notre Dieu et le vôtre ne font qu'un seul et unique Dieu. » Là, c'est un deuxième outil de dialogue, c'est de commencer par les zones d'entente. On ne commence jamais par les différences. Parce que commencer par les différences, c'est installer une ambiance de très loin de la confiance. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est établir la confiance. Parfois, il y a des négociations qui n'arrivent jamais au résultat attendu. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé par nos différences. Certes, on a des différences. L'objectif de ma présence aujourd'hui, ce n'est pas de gommer nos différences. Ce n'est pas de négliger que le fait que nous sommes différents. Ce n'est pas ça l'objectif. Nous sommes différents. On a beaucoup de points de différence et divergence entre nous. Mais on a beaucoup de points d'entente. On a beaucoup de choses qui nous réunissent. Donc, faisons une règle d'or qui stipule qu'il faut s'entraider là où on est d'accord et se tolérer là où on est en désaccord. S'entraider sur les points d'accord et se tolérer sur les points de divergence. Parce qu'on ne va jamais être pareil. Je ne crois pas que vous êtes capable de faire de moi un chrétien. Je ne crois pas que je suis capable de faire de vous des musulmans. C'est bon. Je sais très bien que vous avez la conviction, que vous êtes parfaitement convaincu de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Mon objectif, ce n'est pas de rendre des chrétiens musulmans ou de rendre des musulmans chrétiens. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Mais on est ensemble. On est ensemble. Moi, j'habite à 100 mètres d'ici, juste derrière la gare. Est-ce qu'il est logique de ne pas avoir une intervention ici? C'est pas logique. On est à 100 mètres. Chaque jour, quand je passe pour aller à la mosquée, je dois passer par l'église réformée. Si je ne viens pas faire une intervention aujourd'hui, si je ne connais pas les gens qui viennent ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, mais c'est qui ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils se rencontrent? Mais c'est quoi leur dogme, leur conviction? Mais pourquoi se poser ces questions tout seul? Je viens ici, je vous pose ces questions. Je pose cette question à Jean-Marc. Je pose ces questions aux gens qui sont capables de m'expliquer leurs convictions. L'islam n'est plus en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Les musulmans sont ici. Et peut-être c'est un bon point. Ça pourrait être un point fatal. Si on laisse les extrémistes prendre les décisions et gérer les politiques, ça va être fatal. Que ce soit pour nous ou pour vous. C'est sûr. Donc, il y a notre rôle. Est-ce que, et là je reviens pour parler du troisième point, ou avant ça, je dirais que, pour récapituler tout ce que je viens de dire, comment dialogue-t-on? Je vais définir les trois C. Hein, ce sont les niveaux, les différents niveaux de notre dialogue. Les trois C. Premier C, connaissance mutuelle. Deuxième, confiance mutuelle. Troisième, coordination mutuelle. Coordination. connaissance, confiance, coordination. On ne peut pas travailler ensemble avant se connaître déjà. Il faut se connaître. Mais se connaître pour quel objectif? C'est pour établir une confiance entre nous. Après, on peut parler des sujets qui fâchent. Quand il y a une relation, une vraie, quand il y a une confiance entre nous, on peut parler des sujets qui fâchent. Et peut-être parmi vous après, ceux qui vont poser des questions sur des sujets qui fâchent. Et tout à l'heure, Jean-Marc m'a demandé qu'il pourrait y avoir des questions un peu sensibles. Si tu veux ne pas répondre, t'es pas obligé. Je lui ai dit que je veux et je préfère répondre à toutes les questions. Je préfère répondre à toutes les questions. Mais ça veut dire quoi? Que si vous me posez une question qui fâche, ou une question sensible, je ne vais pas répondre sur la question. Mais je vais vous dire, et je vous le dirai même maintenant, que ce n'est pas le moment. Voilà la réponse. Voilà ma réponse. Je vais vous répondre, mais pas pour répondre à la question, mais pour vous dire que ce n'est pas le moment. Il ne faut pas croire qu'une religion d'1,3 milliard de musulmans et avec des millions de savants ne sont pas capables à répondre à quelques questions posées par des chrétiens qui ne sont pas spécialistes dans la religion. Comme, d'autre part, il ne faut pas croire qu'un musulman peut venir vous poser des questions dont vous ne serez pas capable de répondre. Sur, je ne sais pas, la Trinité ou des questions qui sont un peu sensibles. Hein. Je crois que vous êtes capable de répondre. Parce que vous avez une religion que ça fait 2000, ça fait 20 siècles qu'elle est là. C'est une religion qui a des centaines de millions de fidèles. Donc vous pouvez répondre. Vous êtes capable de répondre. Je suis capable de répondre. Mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Il faut avant tout ça avoir un minimum de confiance entre nous pour parler de ça. Donc, connaissance, confiance, coordination. Après, sur quoi dialogue-t-on? Et je termine par là. Sur quoi dialogue-t-on? Je crois qu'on a tas de choses qui nous intéressent mutuellement. Premièrement, déjà, parler de la société de consommation. Si cette semaine parle de la laïcité et de votre vision et de notre vision concernant ce principe qui est la laïcité, moi je dirais une chose, que séparer l'Église de l'État, autrement dit avoir ou l'absence de l'Église dans la politique ne veut pas dire l'absence de la foi de la société ne veut pas dire cela. L'absence de l'Église ou de la religion dans les directives politiques ne veut pas dire l'absence de la foi dans la société. Et ça, c'est notre rôle, nous, les religieux, ceux qui ont des valeurs, parce qu'on a des valeurs communes. On a des valeurs universelles, même avec ceux qui ne croient pas. Mais avec ceux qui croient, et surtout les religions monothéistes, on a beaucoup de valeurs partagées et beaucoup de principes partagés. Par exemple, la foi est la chose la plus chère pour l'homme. On ne la partage pas? Si. Que être véridique, ne pas mentir, être bon, aimer l'autre, ce ne sont pas des valeurs qui nous réunissent. Pourquoi aujourd'hui, dans nos affaires administratives, ceci est absent? Mais la laïcité ne veut pas dire cela. La laïcité est la laïcité qui était un principe du 19e et 20e siècle, avec le changement du statut de l'État. Je crois que l'État, depuis 2 siècles, n'est plus l'État d'aujourd'hui. L'État d'aujourd'hui gère plus de choses que l'État auparavant. Donc, séparer le religieux de l'État, il faut qu'il reste dans l'esprit de la naissance de ce principe. Il ne faut pas que le fait de séparer l'Église de l'État devient synonyme de séparer toutes les valeurs de nos sociétés, de notre vie quotidienne. Non, ce n'est pas vrai. À mon sens, ce n'est pas vrai. Il faut qu'on vive avec nos valeurs, avec nos principes, avec notre foi. Il faut que notre foi nous accompagne là où on va, dans notre travail. Si je suis médecin, mais j'ai des valeurs. Si je suis, architecte, je suis architecte, mais j'ai des valeurs. Dans l'islam, et c'est la vision de l'islam, l'homme est un être qui n'est pas décomposable. On ne peut pas le décomposer. Mais c'est un être qui respecte les différents contextes. Si je suis un homme politique, je ne mets pas des objectifs religieux à des perspectives politiques. Ça, c'est vrai. Mais si je suis un homme politique, je suis le même qui gère les politiques et je suis le même qui est chez lui. Et on a vu que Tony Blair, après sa démission, il a dit que c'est vrai que mes convictions religieuses ont beaucoup influencé mes directions politiques. Et ça, on le voit partout. Donc, l'homme est un être indécomposable, qui ne peut pas être décomposé. L'homme ne peut pas être contradictoire. Surtout le religieux, le fidèle, ne peut pas être contradictoire. Mais le religieux, le fidèle, le croyant, celui qui a la foi, est quelqu'un qui change de stratégie parfois parce qu'on est dans des contextes différents. Et c'est ça la position de l'islam vis-à-vis de la laïcité. Je crois que moi, aujourd'hui musulman, la laïcité pour moi est un garant de cohabitation paisible. Si ce n'était pas la laïcité, je crois que ça aurait été les croisades. Que je ne peux pas faire ma mosquée ici, si ce n'était pas la laïcité. Je ne peux pas être imam ici en France. C'est les croisades si ce n'était pas la laïcité. Mais quelle laïcité? C'est la laïcité qui respecte les identités religieuses de chacun de nous. Et non pas la laïcité qui est parfois mal interprétée. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas une laïcité, mais il y a des laïcités. Il y a des laïcités, à chaque fois, on explique la laïcité comme on veut. Et chacun explique la laïcité comme il veut. On a la laïcité, je vous donnerai quelques exemples. La laïcité, c'est le fait que l'Église ne s'introduit pas dans les affaires politiques. Mais on a différentes interprétations de la laïcité. Par exemple, dans des mairies à côté de nous, en 74, des mairies qui donnent des terrains à 1 euro symbolique pour construire des mosquées. D'autres, ils disent non, c'est la laïcité. On ne peut pas vous donner. Donc, on voit qu'il y a différentes interprétations de la laïcité. Et aujourd'hui, de notre rôle et de notre responsabilité, nous, qu'on partage des valeurs et des principes moraux, on doit dire à la société que la laïcité ne veut pas dire l'absence de nos valeurs et de nos principes de la société. C'est ce que je voulais vous dire et je vous laisserai le temps pour vous poser vos questions. Mais tout ce que je voulais dire, que si nous, les religions ou les religieux et les responsables religieux, nous ne sommes pas capables de donner un exemple de cohabitation et de vivre ensemble, il n'y a personne qui est capable de faire. Personne. Donc voilà ce que je voulais dire.
Laisser une part à la foi. Donc elle n'est pas à l'expression de la foi, enfin une certaine idée de la foi. N'y a-t-il pas une autre manière de définir la laïcité en parlant plus de laisser une part à la morale? C'est-à-dire qu'avec la morale, on se dégage de cette idée de foi, de croyance et de se rattacher à autre chose. Qu'en pensez-vous? Foi ou morale?
Quand j'ai parlé de foi, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est les principes moraux. C'est les principes moraux où on se sent heureux. C'est les principes moraux qui gèrent notre conviction. Moi, je me suis exprimé par le terme foi, mais je voulais dire morale. Morale, foi, principe, valeur, pour moi, ça débouche sur les mêmes sens. Merci.
Autre question.
Je vous remercie de bien avoir fait la distinction entre bienfaisance et justice.
Je crois que en France, on est trop géré par les lois. Même notre relation de voisinage, parfois, elle est gérée par les lois. J'ai le droit, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit de mettre le vélo je ne sais pas où, vous n'avez pas le droit de préconiser l'ascenseur. Mais il ne serait pas possible, au mieux, d'avoir un autre principe ou un autre système qui gère nos relations de voisinage, nos relations entre collègues. Hein, c'est la relation de bienfaisance et non pas la relation de j'ai le droit, vous n'avez pas le droit. Parce qu'on aura, chacun aura besoin de l'autre. Et quand j'aurai besoin de vous et vous ne m'aidez pas, c'est de votre droit. Mais vous aurez besoin de moi, je ne vous aiderai pas. C'est de mon droit aussi. Hein? C'est pas moi qui dis, mais je caricature les principes qui gèrent un peu nos relations. On est trop géré par les lois. Laissons les lois, laissons les politiques faire ce qu'ils ont à faire, mais nous, entretenir une relation meilleure. Meilleure. Moi aussi, je sais que mon voisin, c'est quelqu'un qui m'aime, ça va me rassurer. Mais il ne faut pas dire que non, mon voisin, c'est celui qui est à côté de moi, il a le droit de faire, il n'a pas le droit de faire.
Oui, mais les droits sont nécessaires parce que tout le monde n'est pas bienfaisant.
Bien sûr, bien sûr. Les lois sont là pour mettre l'ordre. Mais si on s'aime...
Mais pousser très loin, c'est vrai que ce n'est pas normal.
Voilà. Je parle d'aller à l'extrême. Hein, toujours aller à l'extrême, moi je préfère toujours le juste milieu. La loi est là pour préserver les droits. Mais si je vous aime, il n'y aura pas besoin ou je ne penserai même pas de prendre vos droits. Mais je suis là pour préserver vos droits. Voilà.
Il y a un texte d'Isaïe qui dit « J'inscrirai ma loi au fond de votre cœur ».
Voilà. Voilà.
C'est ça. Pour que tout le monde puisse vivre comme ça.
Donc c'est pour dire que la loi toute seule n'est pas suffisante pour donner un modèle social. Il faut que la loi soit en parallèle avec la morale.
C'est rigide.
Oui, on le voit aujourd'hui, par exemple, on réclame une nouvelle loi sur l'euthanasie. Au lieu de laisser, j'allais dire, la conscience personnelle aux gens, pour réglementer absolument tout, jusqu'à la c'est
néfaste
aussi, ça enlève la responsabilité des hommes.
Exactement. La loi parfois nous accompagne même après la mort. Hein? Parfois on a fait des demandes de carrés musulmans dans des cimetières. Bon, heureusement ici à Annecy, on l'a eu. Bon, c'était pas un carré musulman, c'était une ligne musulmane. C'était pas un carré. Bon, on a réussi à faire que ça se rapproche plus d'un carré que d'une ligne. Mais dans d'autres mairies, ils nous ont dit que non, Non, vous êtes français, tout court. Donc, on s'est dit que je suis musulman. Je vis dans un pays laïque. Mais laissez-moi mourir musulman. J'ai passé toute ma vie laïque. Laissez-moi mourir musulman, moi. Laissez-moi mourir en conformité avec ce que je crois. Vous avez géré ma vie. Laissez-moi mourir, au moins. Donc, c'est quand la loi va à l'extrême et quand la laïcité est interprétée par des extrémistes, ça menace la morale. Ça menace le religieux. Mais quand la laïcité est bien interprétée, elle est un garant pour le religieux et pour les religions. Oui. Oui. Justement, tout à l'heure, je parlais de différentes interprétations de la laïcité. Que en Turquie, avec Kemal Atatürk, il a interprété la laïcité de cette façon, qu'une femme voilée ne peut pas rentrer à l'université avec son voile. Alors que, ou même faisant une photo d'identité avec son voile, ce n'est pas permis. Alors que, normalement, si on dit photo d'identité, hein, il y a le mot identité quand même. Et une musulmane croit que le voile fait partie de son identité. Que nous, aujourd'hui, on a un problème avec quelques points de l'interprétation de la laïcité, même en France. Même en France, quand on dit que une femme voilée ne peut pas rentrer à l'école avec son voile, on voit que c'est contradictoire avec la laïcité française, avec la première conception de la laïcité en France. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que le foulard ou le voile est un signe religieux, est un signe ostentatoire. Hein ? Avant, on a dit ostentatoire, après on l'a modulé. Ostensible, parce que quand on dit ostentatoire, c'est comme si on est rentré dans le cœur de la personne et on a vu ce qu'il y a et elle veut faire ça par des objectifs d'ostentation, hein, et de prosélytisme. Donc après ils ont dit non, c'est pas bon. On va dire c'est pas ostentatoire mais ostensible, donc qui permet ce comportement ostensible. Mais le fait de dire que le voile est un signe religieux, mais c'est le musulman qui doit dire si c'est un signe ou si c'est une valeur. Parce qu'il y a une différence entre signe et conviction. Signe, c'est quelque chose qui n'a pas d'utilité privée, mais qui a une utilité quand on est devant tout le monde. Mais la femme voilée, même quand elle est chez soi avec des gens étrangers, elle porte son voile. Même avec son cousin, même avec, mais bien sûr pas avec son frère, pas avec son mari, pas avec son père, mais même chez elle, elle porte le voile. Donc, dire que le voile est un signe, je ne crois pas qu'un non-musulman a le droit de définir ce qui est le voile. Mais c'est aux musulmans de leur demander, est-ce c'est un signe ou pas ? Donc, je crois que si je parle avec un chrétien, je n'ai pas le droit d'expliquer sa religion ou expliquer ses textes religieux par un non-chrétien. C'est pas logique. Donc demandez aux musulmans si c'est un signe ou si une conviction ou si une adoration. Et on va vous dire que c'est une adoration, que c'est une conviction, que c'est une liberté de choix et non pas un signe. Et mettre au même pied d'égalité le foulard et la croix, je crois que c'est injuste. Et c'est ce qui s'est passé en Turquie par cette interprétation qui va à l'extrême de la laïcité. Être laïque, c'est ne pas porter son voile en rentrant à l'université. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un dialogue en Turquie concernant ce comportement ou cette interprétation de la laïcité. Oui.
Excuse, je vais poser une question délicate, mais j'aimerais que vous sachiez que je le fais avec amour et respect.
Ok.
Vous avez dit qu'il y a plusieurs interprétations de la laïcité. Il y a aussi plusieurs interprétations du djihad. Et j'aimerais savoir quelle est votre interprétation, si ça fait partie du sujet d'aujourd'hui.
D'accord. Ok. Le fait de poser la question par amour ou par haine ne change pas le contenu de la question. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, là, je vais essayer de répondre à votre question, mais pas trop s'étaler sur cette réponse, parce qu'elle fait partie des points un peu sensibles. Je dirais, avant de répondre, que pour connaître un objet, ou un système, ou une chose, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Il faut la voir, il faut la sentir, il faut l'écouter, il faut la toucher, et donc on utilise tous nos sens qui nous rapprochent ce que c'est cette chose. Et non pas, on prend juste un côté et le critiquer. Je crois que pour une meilleure connaissance, on ne doit pas éparpiller la chose ou la décomposer et critiquer quelque... Non, il faut connaître la chose et après, si on a des questions, et c'est ce qu'on voit dans les universités. Par exemple, pour enseigner la psychologie, on définit ce que c'est la psychologie, après les différentes versions, après les différentes thèses, et après, on vient à la critique. La critique ne peut être bénéfique et valable qu'après la compréhension. Mais on ne commence pas par la critique. Mais, malgré ça, je vais répondre à ma conception et ma compréhension et la vision islamique du mot djihad. Le mot djihad, en arabe, est défini en tant que tel. Faire l'effort. Al-juhd, c'est l'effort. Djihad, c'est faire l'effort. Il y a 11 types de djihad. Premier type de djihad, c'est djihad contre Satan. Pour ne pas être égaré. Et là, il y a 3 sous-types. C'est faire le djihad contre l'ignorance, parce qu'être ignorant, c'est être sans armes contre les tentations. Et après, être fort pour résister aux tentations, parce qu'on peut être savant et on connaît que ça, c'est pas bien, mais on le fait, pourquoi? Parce que nos passions, nos envies l'emportent. Donc, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la patience. Et il faut connaître ses ennemis, qui est nos passions qui vont trop loin, ou qui est Satan. Et on peut voir dans notre vie quotidienne des gens sataniques, des idées sataniques. Donc Satan, c'est pas seulement le centre du mal. Non, il y a d'autres personnalités qui œuvrent pour le mal. Donc on a 11 types de djihad. Parmi ces 11 types, on a un qui est faire le djihad contre son ennemi, soit qui nous combat dans la religion, soit qui nous chasse de nos demeures, soit celui qui nous fait subir de l'injustice. Et je crois aujourd'hui que d'après l'ONU, d'après l'UNESCO, d'après toutes les cultures, civilisations, toute l'humanité est d'accord que faire une ou résister aux colons, à ceux qui viennent prendre nos terres et nos demeures, c'est de notre droit. Et le djihad dans l'islam, il n'est que dans ce sens. C'est le sens de résister à celui qui nous fait de l'injustice, soit par le fait de nous combattre pour la religion, soit parce qu'il nous chasse de nos maisons et de nos terres, soit parce qu'il nous fait subir des injustices. Ce sont les 3 types de djihad d'après l'islam. Voilà.
Merci. Alors, on va remercier l'imam Mohamed Ayari. Je crois qu'il est l'exemple type d'avoir cherché la meilleure manière de nous parler. on sent bien que c'est travaillé, et peut-être que s'il revient, il en aura encore trouvé une meilleure, mais aujourd'hui, c'était difficile de faire mieux. Et je pense que sur le chemin des 3C, la connaissance, la confiance, on a fait un grand pas grâce à lui aujourd'hui. Alors dirigeons-nous courageusement vers la coordination. Alors, encore un grand merci à lui. Merci à vous tous. C'est le moment des desserts. Oui, alors, on va passer maintenant au dessert et au café. Mais je donne un mot à Jean-François Cuillafrose.
Oui, c'est dans le prolongement de ce que vient de dire Mohamed Ayari, dans la connaissance, dans le cadre de la nuit du cinéma et de la Bible, le premier film qui s'appelle Le Blues de l'Orient se situera entre Paris, Tel Aviv, Beyrouth, Alep, et donc ça montrera aussi comment tout à la fois la musique, mais aussi le désert qui est au cœur des trois religions monothéistes, peut nous permettre effectivement d'aller vers une coordination. Donc si vous ne pouvez pas venir la nuit, sachez que ce film-là, qui en plus est ouvert aux familles très largement, c'est un film avant tout musical, il faut vraiment y venir, c'est un élément qu'on ne connaît.
Donc le blues, le blues,
18h,
voilà, le blues de l'Orient à 18h, c'est le premier film de la nuit du film, à la Turbine, à 18h, à Grand-Gévrier. Et puis je vous rappelle, les études bibliques continuent, demain c'est Bernard Bidot, chargé de communication, théologien catholique, qui viendra faire cette étude biblique, et puis vendredi, le pasteur Didier Arnaud, pasteur de l'église évangélique pentecôtiste d'Annecy. Merci, bon dessert et bon café.
Merci, c'était...